Radio Grand Ciel présente Tournepage, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Laure Aveau. Au micro, Christiane Blain. C'est toujours avec joie que je reçois Jean-Yves Brie, qui évoque pour nous un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, « Dans l'amitié d'une montagne, petit traité d'élévation » de Pascal Bruckner. Jean-Yves Brie, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors pourquoi avez-vous choisi Pascal Bruckner, dans l'amitié d'une montagne, chez Grasset?
Parce que je lis beaucoup de livres sur la montagne, j'adore ça.
Et pourtant, elle n'a pas été aimable avec vous.
Non, mais enfin, je lui en veux pas.
Bon.
Et donc, je me souviens, quand j'allais à la montagne régulièrement, dans le même chalet, je relisais tous les ans Annapurna, premier 8000, de Maurice Herzog.
Ah voilà, on a tous, on se le disait avant l'émission, on a
et
tous aimé.
Et puis les livres de Frison Roche, et,
ah, oui.
Et puis maintenant, Sylvain Tesson, qui nous parle bien de l'ascension, de la montagne, et Jean-Christophe Ruffin,
ouais.
Et Éric De Luca, pour lequel on avait fait une émission.
Oui,
donc j'aime beaucoup les livres sur la montagne, et celui-ci il est un petit peu différent, parce que généralement les livres racontent une histoire qui est arrivée dans la longueur, la montagne. Celui-ci c'est plutôt une somme de réflexions sur son rapport avec la montagne, sur ce qu'il appelle son amitié avec la montagne.
Oui, c'est plus avec la montagne qu'avec ceux qui sont élevés grâce à la montagne.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'aime pas beaucoup les gens qui se glorifient d'avoir vaincu des sommets, etc.
Non, mais Maurice Herzog, c'est quand même un héros pour
oui,
moi.
Oui, bien sûr. Bien
alors
sûr.
Que pas pour l'auteur.
Et donc, j'aime beaucoup les livres sur la montagne, et celui-là, je l'ai beaucoup aimé aussi, parce que c'est une somme de réflexions, quelquefois poétiques, quelquefois philosophiques,
oui.
sur la montagne. Et il explique d'ailleurs au début pourquoi il a une telle amitié pour la montagne. C'est parce que quand il était très jeune, vers peut-être 2-3 ans, il avait un début de tuberculose,
oui.
Et son père, avec qui il s'entendait par la suite pas très bien, l'a envoyé dans une maison de santé en Autriche,
oui.
Dans le Vorarlberg.
Mm.
Et alors là, ça a été, il est tombé en amour, déclic. Comme on dit au Québec,
ouais.
Avec la neige, avec le silence de la neige qui recouvre tout et comme il le dit, qui gomme tout ce qui n'est pas beau dans le monde. Et aussi avec toute la, pas seulement le côté minéral de la montagne et le côté magnifique, aussi avec toute la civilisation alpine.
Oui, c'est vrai.
Il parle beaucoup des troupeaux de vaches, du lait. Il parle beaucoup aussi de la Suisse, dont il adore les traditions. Et ce pays qui est tellement resté à l'écart des problèmes du monde. Pour
oui.
lui, c'est une sorte de tranquillité formidable. Quoi.
Oui, la montagne, ça forge une âme en quelque
oui,
sorte.
Oui, oui. Et donc, on comprend. Pourquoi il a fait ce livre sur la montagne ? Parce que c'est une permanence dans sa vie, les séjours à la montagne, l'été, l'hiver, et les courses dans la montagne. Et d'ailleurs, il dit que, bon, il a à peu près 70 ans maintenant, mais qu'il fait toujours beaucoup de randonnées, même de quelques sommets, en les adaptant petit à petit à son âge.
Mais il est quand même très fier de ce qu'il fait.
Mais oui, exactement.
Alors
parce que la montagne, c'est aussi un moyen de se dépasser soi-même.
Bien sûr.
Et c'est un moyen d'atteindre et de se rendre compte qu'on est capable de plus.
Qu'on est encore capable.
et qu'on est capable de plus que ce qu'on pensait. Et en fait,
ça fait du
à
bien
un moment,
là,
d'ailleurs, il cite Spinoza. Nul ne sait ce que peut le corps, et moi je trouve ça très bien. Et la montagne est un moyen d'expérimenter ce que dit Spinoza.
Oui, pas seulement la montagne d'ailleurs, tout est fort.
Bien sûr, mais la montagne, c'est quand même un terrain de jeu formidable. Quoi,
exactement.
Pour le corps.
Alors, vous voulez que je lise page 18 ?
Oui, sur la neige et sur le...
Voilà, un peu ce qui illustre ce que vous disiez. Hein? Dès que j'arrive au-dessus de 1000 mètres, je respire mieux. Je ressens une euphorie particulière. L'éther m'enivre, aère mon cerveau, libère les endorphines. Quelque chose me soulève au-dessus de moi-même. Les torrents qui mugissent et débordent de leur lit m'exaltent. Je me sens chez moi. Je divise spontanément le monde entre les vallées basses et les hauteurs étincelantes où je connais un processus de purification. La neige est d'abord une gomme à effacer la laideur du monde, même si la laideur triomphe de la gomme. Il est un peu pessimiste quand même.
Oui, mais non, c'est peut-être une formule hein, pour...
Ah, je vois que vous le défendez.
Hein. Oui, j'aime bien. Bon, il y a aussi beaucoup d'expériences vécues, il y a aussi beaucoup de réflexions, et il cite beaucoup d'auteurs, c'est un livre fait de multiples facettes, quoi.
Oui, alors racontez-nous les facettes.
Par exemple, c'est très drôle, parce que quand il parle de la Suisse, ce pays protégé, et il cite un texte qu'il a découvert d'Alphonse Daudet, qui considère que c'est les voyages de Tartarin, et dans un de ces voyages, Tartarin va en Suisse. Et alors, il considère que la Suisse est un pays entièrement en carton-pâte. En fait, c'est comme si c'était un Disneyland, et que si vous tombez dans une crevasse, en bas de la crevasse, vous trouvez à l'entrée d'un palace où il y a un maître d'hôtel qui vous époussette la neige qui est sur vous. Et bon, il y a plein de références comme ça à des auteurs différents. Il dit par exemple qu'Herri de Luca, c'est le franciscain de la montagne. C'est vrai, quand on a lu Herri de Luca, on ressent ça aussi.
Nous en avons parlé... Lors d'une émission, effectivement.
Et c'est vrai que pourquoi la montagne inspire-t-elle autant d'auteurs ? C'est étonnant. Il y a un pouvoir de fascination.
Mais déjà, quand on arrive et qu'on voit les sommets, on est différent.
Oui, exactement. Il y a quelque chose qui... quand vous arrivez à Chamonix et que vous regardez les sommets là-haut, ça vous fait quelque chose quand même.
Hein. Oui. Et... je dois dire que les enfants jeunes, et c'est un peu son cas, eh bien, ils sont complètement, non seulement heureux, mais exaltés quand ils voient la montagne pour la première fois. Et ils commencent à voir que c'est difficile, la montagne.
Oui, c'est l'apprentissage de l'effort et de la récompense.
Voilà, effort et récompense. Ouais. Et je trouve que tous les enfants devraient avoir un séjour à la montagne. Ils ne verraient plus les choses comme elles sont dans nos plaines.
Et c'est aussi un effort et récompense pour le jeune qui découvre la montagne. Et aussi une ruse pour échapper au temps. Parce qu'il dit que finalement, quand on atteint un certain âge, on peut toujours continuer à faire des randonnées et des escalades, à condition de le faire en fonction
étant modeste.
En étant modeste, oui. Mais en espérant, même en étant modeste, se dépasser encore toujours un peu.
Oui, exactement.
C'est aussi la montagne, une école de précaution et d'audace. Et ce qu'il dit aussi que j'ai bien aimé, c'est que on ne se sent jamais aussi vivant que lorsqu'on fait une ascension un peu difficile et qu'on a l'impression de tenir sa vie entre ses mains, quoi.
Oui, c'est ça. Il y a toujours le danger qui est omniprésent.
Oui, oui, oui.
Et tous les auteurs qui ont écrit sur la montagne, eh bien, ressentent ce fait, je crois.
Oui, oui, la montagne est belle parce qu'elle nous résiste.
Oui, enfin, on espère.
Oui.
Alors, peut-être vais-je lire... Vous m'avez demandé, page 30. Depuis l'enfance, j'aime la vie circonscrite, la moyenne montagne cernée de pics, la garde rapprochée des forêts, la symphonie apaisante des clarines au cou des vaches, la cataracte limpide des torrents, les maisons de poupées des chalets dont la miniaturisation semble proportionnelle à l'immensité de l'environnement. J'apprécie en eux le huis clos utérin, lieu de l'idylle par excellence. Plus la chambre est petite, le lit encastré dans le mur, comme une cabine de bureau, plus je suis heureux. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi cette claustrophobie, en quelque sorte, peut plaire ?
Je pense qu'on a tous éprouvé le plaisir de retrouver un chalet chaleureux après une journée dure en montagne avec le froid, la neige, etc. Il dit d'ailleurs un peu plus loin, j'aime l'hiver qui est le moment de la claustration chaleureuse avec les êtres chéris et les bons livres.
Oui.
J'aime les Noëls classiques autour de l'arbre et si possible avec cantique en allemand. Oui, ça, c'est parce que depuis son enfance, il est en Autriche. Je suis alors comme un vieux chat qui ronronne sur son radiateur et se laisse couver. Pour aller vers l'inconnu, j'ai besoin d'un refuge, d'un centre qui m'attend.
Alors, ce centre qui l'attend, expliquez.
Eh ben, c'est le foyer, c'est le chalet chaleureux qu'on retrouve après une grande journée en montagne.
Voilà. Et en fait, ce que moi j'ai moins aimé dans ce livre, c'est par exemple le fait de détruire des héros. Qu'en pensez-vous ?
Non, il ne cherche pas à détruire les héros, je ne pense pas. Parce que, enfin, il y a par exemple, Mallory qui dès les années 20 voulait conquérir l'Everest et qui est finalement est mort sur les pentes de l'Everest et qu'on a retrouvé en 1999, puisque maintenant, avec la fonte des glaciers, on retrouve les alpinistes morts il y a des dizaines d'années. Il n'est pas extrêmement admiratif de ça. Lui, ce qu'il aime, c'est s'affronter à la montagne dans quelque chose de tout à fait possible. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit, j'ai pas une passion extrême pour la montagne, mais j'ai une grande amitié pour la montagne.
Oui, c'est, je crois, ça, sa différence. Ouais. Parce que moi, Maurice Herzog, j'avais admiré, enfin.
Ah, moi aussi.
J'avais écouté ses conférences, il avait dû avoir les doigts coupés.
Oui, mais là, il faisait référence à une polémique qui avait eu lieu à propos de la Chenal et de Herzog après cette ascension où chacun avait un petit peu tiré la couverture à soi, quoi. Il y avait une espèce de. D'ailleurs, il y a eu longtemps un nationalisme autour de la conquête des sommets.
Oui.
Maintenant, c'est un peu terminé, quoi. Maintenant, on célèbre plus l'exploit individuel.
Voilà, c'est ça. Parce que, je ne sais pas, mais quand on a eu des gens comme Frison Roche,
Maurice Herzog,
on adorait les lire. C'était
et
vraiment...
maintenant, il y a une nouvelle mode, d'ailleurs, dans la montagne. Il en parle aussi, ça, dans le livre. C'est d'affronter la montagne à main nue.
Oui, alors racontez ça.
Maintenant, les grimpeurs, il y a des grimpeurs extraordinaires qui ont juste des petites chaussures avec semelles de caoutchouc,
oui.
Enfin l'été, un t-shirt, et qui grimpent sans aucune assurance.
Mais...
Et des parois incroyables, quoi.
Oui, on a l'impression que maintenant, risquer sa vie, est-ce que c'est vraiment risquer sa vie ? Nous, en tant qu'observateurs, on le croit.
Ah oui, ça c'est vraiment risquer sa vie parce que il suffit qu'il tienne quelquefois dans des petites anfractuosités où on peut juste mettre un ou deux doigts. Hein.
Oui, mais ça c'est ce que nous observateurs nous pensons. Mais moi, j'imagine que pour eux-mêmes, ils pensent le contraire. Ils pensent qu'ils sont invincibles.
Ah exactement, oui exactement. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont tombés quand même.
Oui.
Alors, si vous voulez, dans ce livre, c'est ça qui est intéressant. Il parle des grands exploits, il parle de l'exploit quotidien de celui qui aime la montagne. C'est une admiration sans borne pour la beauté de la montagne et aussi les réflexions philosophiques sur ce que peut nous amener la montagne. Quoique lui, quand il grimpe, il dit qu'il est totalement concentré sur ce qu'il fait et que c'est pas à ce moment-là que sa tête philosophe, quoi.
Oui, d'ailleurs, il écrit dans les dernières pages « Qu'est-ce qu'un amoureux de la montagne ? Quiconque tressaille de plaisir à la première neige sur les prés, frissonne devant le beffroi ensoleillé d'une cime, reste la gorge nouée devant le minaret d'une aiguille, et se réjouit que l'Everest gagne 5 mm par an, que les chaînes continuent à s'élever, nos descendants auront peut-être toujours des Noëls blancs, pourvu qu'il consente à monter plus haut. » Eh bien, si vous le voulez, nous allons peut-être nous arrêter sur ces paroles. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel. Un grand merci, Jean-Yves Vry.
À très bientôt.